Bonjour.
Bonjour.
Avec, comme toujours, hein, dans la prochaine heure, Thomas Legrand et Dominique Seau au rendez-vous, avec Sylvain Tesson qui nous fera passer l'été avec Rimbaud juste avant 8h, et Fabrice Dalméda qui nous plonge dans les archives secrètes de la Défense avant 9h. Mais le remaniement hier soir et de nomination choc, c'est l'actualité du jour. Roselyne Bachelot à la culture, Éric Dupond-Moretti à la justice, les magistrats vent debout, réaction en direct tout à l'heure à 7h15 avec Florent Boitard de l'Union des syndicats de la magistrature. Sur les dossiers brûlants qui attendent le gouvernement, réforme des retraites, de l'assurance chômage, nous serons avec le patron de Force Ouvrière, Yves Verrier, à 7h50. Et puis dans le grand entretien de la matinale à 8h20, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, on attend vos questions, chers auditeurs. 01 45 24 7000 dans le reste de l'actualité, Hélène.
Les résultats d'un drôle de bac. Aujourd'hui, seuls ont compté les notes des premiers et deuxièmes trimestres. L'épidémie de Covid-19 s'aggrave en Israël. Bar, piscine, musée, tout ce qui avait rouvert referme. Et puis le cinéma, tout simplement noir. Une comédie attendue cette semaine.
France Inter.
Des plateaux de télé à la scène culturelle. Roselyne Bachelot remonte donc sur les planches politiques et cette, avec l'arrivée du pénaliste Éric Dupond-Moretti à la justice, la surprise de ce nouveau gouvernement. Ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, chroniqueuse télé depuis 8 ans, elle qui jurait que la politique était derrière elle, finalement a changé d'avis.
Quand on m'interrogeait sur est-ce que vous reviendriez en politique, je répondais non jamais, sauf pour être ministre de la culture. Puis tout d'un coup, ça vous arrive. Vous voyez le numéro du Premier ministre s'afficher sur votre portable. Il me dit, est-ce que tu rejoindrais l'équipe gouvernementale? Je dis non. Et pour être ministre de la Culture, je lui réponds là, tu me fais craquer. Je me dis qu'il y a une opportunité incroyable à saisir dans les circonstances actuelles.
La nouvelle ministre de la Culture avec Benjamin Mathieu hier soir pour son premier déplacement. C'était un concert à la maison de la radio. La passation de pouvoir avec Franck Riester qui lui a rejoint le commerce extérieur avait eu lieu un peu plus tôt et Roselyne Bachelot a promis d'être la ministre des artistes. Elle a annoncé des états généraux des festivals. Il va falloir aller vite et fort pour rassurer le monde de la culture, Alexandra Akoun.
Spectacle vivant, édition, cinéma, audiovisuel, presse écrite, Roselyne Bachelot va avoir de quoi faire. Tous les secteurs qui lui reviennent sont sinistrés. L'urgence, c'est la pleine réouverture des salles de concert et de spectacle. Malika Seguino est la présidente du syndicat national des producteurs, diffuseurs, salles de spectacle musical et de variété. Elle répond à Isabelle Pasquier.
Ce que nous souhaitons désormais obtenir, c'est une reprise à l'automne, en jauge pleine, jauge assise et jauge debout. C'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut que nous rencontrions assez rapidement la nouvelle ministre de la Culture, Madame Bachelot, pour pouvoir déterminer les conditions de cette reprise.
Rencontrer, dialoguer, être entendu, soutenu. Le monde de la culture en a besoin aussi. Lui qui a eu le sentiment au plus fort de la crise d'être le grand oublié des plans d'urgence. Et si en plus la nouvelle ministre s'est tapé du poing sur la table, Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle, avec Stéphane Capron.
Roselyne Bachelot est connue pour son franc-parler et ce sera peut-être utile quand il faudra se battre face à Bercy qui considère toujours que la culture c'est un coup. Tant mieux si elle est capable de taper du poing sur la table. Maintenant, ce que l'on attend, c'est de savoir quelle est la politique culturelle qui va être menée dans un secteur qui est complètement sinistré par la crise du Covid.
Avec des pertes qui atteindraient déjà 22 milliards d'euros par rapport à l'an dernier.
Les cordons de la bourse à Bercy, super ministère pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie et des finances est conforté dans son poste et il est officiellement chargé de la relance, Delphine Simon.
Ce sera lui le patron à Bercy, à l'économie, Bruno Le Maire, seul ministre de plein exercice, chargé d'orchestrer la relance. Il aura à ses côtés pour bâtir le budget Olivier Dussopt, un ancien socialiste de 41 ans, qui va devoir en même temps trouver une stratégie pour rééquilibrer des comptes publics lourdement endettés. Pour accompagner la relance sur le terrain, le président de l'UDP, Alain Griset, cet ancien artisan taxi, sera chargé de soutenir les petites et moyennes entreprises, car le gros dossier de la rentrée, c'est l'emploi, avec la cascade de faillites attendue et l'arrivée de 700 000 jeunes sur le marché du travail. Pour amortir le choc, l'ancienne patronne de la RATP, Elisabeth Borne, passée à la transition écologique, devra porter le comeback de la réforme des retraites, tranchée sur l'assurance chômage, avec à ses côtés à l'insertion l'Alsacienne Brigitte Klinkert, qui s'est fait connaître pour son action dans le Haut-Rhin, l'un des départements les plus touchés par l'épidémie de coronavirus.
L'agenda social crucial est aussi pris en main par Matignon. Les partenaires sociaux y seront reçus en bilatéral à partir de demain soir.
Et d'ici là, l'équipe Castex, 31 ministres, se retrouve cet après-midi, 15h.
Entre ceux qui conservent leur portefeuille, Jean-Yves Le Drian aux affaires étrangères, Florence Parly aux armées, Olivier Véran à la santé, Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale. Il récupère aussi la tutelle sur les sports et la jeunesse. Et puis ceux qui changent de casquette, Gérald Darmanin voulait l'intérieur et le sarkozyste l'arrache. Marlène Schiappa bascule à la citoyenneté, Julien Denormandie à l'agriculture. Au final, un tiers du gouvernement seulement est renouvelé. Le cap politique sera-t-il vraiment différent? Il faudra attendre l'allocution d'Emmanuel Macron le 14 juillet pour le savoir, regrette le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde.
Finalement, on a un mini remaniement casting, quoi. On change quelques acteurs, mais le scénario ne sera connu que le 14 juillet. Et depuis plusieurs jours, on nous parle de réinvention, on nous parle... Et finalement, maintenant, on nous parle de continuité. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir ni réinvention, ni continuité, qu'on a changé quelques acteurs, et je crains qu'on ne change pas grand-chose. Donc j'attends maintenant l'intervention du président de la République. J'espère que les ministres l'attendront aussi, parce qu'eux, ils y sont allés sans savoir finalement ce qui leur serait proposé.
Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, attend la feuille de route. Pour ce qui est du message politique, Cyril Graziani, le chemin tourne plutôt à droite.
Avec ce gouvernement, Emmanuel Macron a d'abord tenté de soigner toutes les composantes de sa majorité. Le MoDem de François Bayrou conserve les territoires et les relations avec le Parlement. Franck Riester, le chef de file du courant Agir, sauve sa tête en récupérant in extremis le commerce extérieur. Et surtout, le chef de l'État, à la recherche d'unité dans ses propres troupes, veut faire taire la grogne interne qui infuse dans sa majorité en faisant entrer une des chefs de file de l'aile gauche, Brigitte Bourguignon, et en élevant Barbara Pompili, numéro 3 du gouvernement. Cette dernière portera la priorité écologique du président, mais pas vraiment de virage vert, preuve que les leçons des municipales ont été peu tirées à l'Élysée. Enfin, Emmanuel Macron fait la part belle à la Sarkozy. Jean Castex d'abord, qui lui-même a fait le forcing pour nommer Gérald Darmanin à l'intérieur, un poste clé, souvent le choix présidentiel. L'acte 3 du quinquennat prend donc un tournant à droite, stratégie claire et identifiée pour la présidentielle.
Voilà, et après les passations de pouvoir qui s'organisent dans la matinée, le Conseil des ministres du nouveau gouvernement est donc prévu cet après-midi à 15h.
Il est 7h07, on ne devrait pas voir les habituelles effusions pour les résultats du bac, c'est aujourd'hui.
Certains lycées les afficheront, ces résultats, d'autres vont les mettre en ligne et puis il y aura moins de surprises cette année. Les élèves confinés, privés de lycée au dernier trimestre, sont évalués sur la moyenne des deux premiers dans chaque matière. Entre ceux qui apprécient d'avoir économisé l'effort de l'examen et ceux qui pensent qu'ils auraient pu améliorer leurs notes en se confrontant aux épreuves, impression de lycéens recueillis à Quimper.
C'est un rendez-vous manqué. J'aurais préféré passer l'examen parce que j'aurais pu avoir de meilleures notes. Parce que bah là, c'est que les moyennes. Or, sur la fin, j'arrivais à avoir facilement 17 en bac blanc, quoi. Donc j'aurais aimé passer, quoi.
C'est bizarre un peu, parce qu'on n'a pas l'impression de l'avoir vraiment, quoi, vu qu'on l'a pas passé. Ça fait bizarre de pas passer un truc qu'on nous a préparé pendant des années, quoi. Enfin, il manque peut-être un truc pour finir le lycée, quoi.
Ça m'arrange presque. Bah, ça m'arrange entre parce que du coup, il n'y a pas de stress, quoi. Et c'est plus cool, quoi.
Je suis plutôt content. Ça enlève quand même un peu de stress en fin d'année. C'est sûr, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Finalement, on le passe pas, quoi. Mais bon, on l'a quand même au final.
Et les témoignages recueillis par nos confrères de France Bleu, Brézizel à Quimper dans le Finistère. L'émotion est encore vive à Bayonne après l'agression d'un conducteur de trambus dimanche soir. La victime, 58 ans, père de 3 filles, se trouvait hier encore en état de mort cérébrale. Dès hier matin, les conducteurs du réseau Chrono Plus ont exercé leur droit de retrait. Très peu de bus circulent. L'enquête, elle, avance. Thibaut Vincent, 5 personnes sont en garde à vue.
Les enquêteurs ont pu s'appuyer sur les caméras du trambus et aux arrêts et sur les témoins de la scène. Toutes les personnes en garde à vue étaient présentes au moment de l'agression. Certaines sont directement impliquées, nous a indiqué le parquet. Selon les premiers éléments de l'enquête, les suspects sont montés dans le trambus à la gare de Bayonne vers 19h. Une dizaine de minutes plus tard, le conducteur, pour une raison à déterminer, est descendu à l'arrêt Balichon à proximité du centre-ville. Il est intervenu auprès du groupe. C'est là qu'a démarré l'altercation et qu'il a été agressé. Pourquoi ? Que s'est-il passé pendant ce trajet ? Les enquêteurs lancent un appel à témoins. Toute personne ayant emprunté ce trambus entre 19h et 19h15 est priée de se manifester auprès du commissariat de Bayonne.
Thibaut Vincent, 517 heures et quelques minutes d'audience, la fin d'un procès fleuve hier, celui du médiateur. Le tribunal rendra son jugement le 29 mars prochain. L'épidémie de coronavirus en Israël, les choses s'aggravent. 816 cas en 24 heures, le reconfinement semble de plus en plus probable pour les Israéliens. C'est la correspondance signée Alice Froussard.
Les bars, les salles de concert ou de spectacle, les boîtes de nuit, piscines, gymnases, musées, musées, tout doit fermer à nouveau pour freiner la propagation du coronavirus. La capacité d'accueil dans les restaurants est désormais limitée à 20 personnes maximum à l'intérieur, 30 à l'extérieur, décision du gouvernement israélien. Le ministère israélien de la Santé prévoit également de limiter le nombre de personnes dans les lieux de culte, pas de prière à plus de 19 et dans les transports publics, 20 passagers maximum, sans air conditionné, fenêtres ouvertes obligatoires. Les plages ne seront pas interdites mais limitées à certaines heures et la réouverture des frontières aux touristes d'ici août n'est plus du tout d'actualité. Stricte mais nécessaire pour empêcher des mesures plus extrêmes, précise Benjamin Netanyahou à la fin de la réunion de la commission spéciale du Parlement consacrée à la lutte contre le Covid-19. Le Premier ministre israélien précise aussi que le pays n'est qu'à un pas d'un reconfinement total, car au moment où les infections grimpent en flèche avec près de 1000 contaminations quotidiennes et où les frontières sont encore fermées, il est compliqué d'inverser la tendance. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, plus de 130 000 morts désormais. C'est le pays le plus touché en nombre de cas diagnostiqués et en nombre de morts. Plusieurs États suspendent là aussi leur processus de déconfinement. Le pays a également décidé de ne pas donner de visa aux étudiants étrangers inscrits dans des établissements qui continueront à enseigner uniquement en ligne à la rentrée. Ceux qui sont déjà sur le territoire américain devront quitter le pays.
Au ciné cette semaine, une comédie cinglante et brûlante, très dans l'air du temps.
Tout simplement Noir, c'est son titre. Le comédien Jean-Pascal Zadi derrière la caméra et une brochette de stars devant. Omar Sy, Joey Starr, Fabrice Eboué, pour ce qui pourrait bien être la comédie de l'été, Corinne Pellissier.
Je m'appelle Jean-Pascal, j'ai 38 ans et je suis en colère.
Prévu initialement pour sortir au mois d'avril, le premier film de Jean-Pascal Zadi ne pouvait pas mieux tomber. Un sujet fort, la question de l'identité noire en France et une nouvelle date de sortie qui pourrait bien arranger les affaires des exploitants de salles. Car avec son humour décapant, son franc-parler, le comédien réalisateur, passé par la musique et la radio, signe un film extrêmement drôle et porté par un casting d'acteurs très populaire. Lucien Jean-Baptiste, Omar Sy, Fabrice Eboué, Joey Starr, Fary, tous ont accepté de jouer leur propre rôle dans cette histoire pas si loufoque qu'elle en a l'air et qui résonne de manière très prémonitoire avec l'actualité.
Je suis en colère parce que la situation des Noirs dans ce pays, elle est catastrophique. C'est pour ça que j'ai décidé d'organiser le 27 avril prochain une grosse marche de protestation noire place de la République.
Intention louable, si ce n'est que rien ne va se dérouler comme prévu. JP Zadi, dans la peau d'un comédien un peu raté et surtout très incompris, accumulera toutes sortes de déconvenues dans son foyer.
Aux États-Unis, il y a eu Martin Luther King. Si en France, il n'y a personne.
Bon, j'y vais.
Auprès des stars qu'il sollicite.
J'ai dit une connerie.
Des gags à l'appel, des répliques bien écrites et souvent bien senties pour un film profond qui ne délaisse jamais son sujet. Comment se définir en France en 2020 lorsqu'on est noir? Jean-Pascal Zadi n'a pas tout à fait la réponse, mais il y travaille avec persévérance et talent.
Il y aura Jean-Pascal Zadi.
Et on ira voir le film avec plaisir, tout simplement Noir au cinéma demain.